Vous écoutez
RMC.
Vous avez choisi RMC la radio, RMC Story la télé pour vous réveiller. On en est très heureux, il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. En cas de guerre, la France doit accepter de perdre ses enfants. Les mots chocs et polémiques du général Mandon, plus haut gradé français. Une semaine après la mort de son frère Amine Kessassi, appelle les Marseillais à descendre massivement dans la rue samedi contre les narcotrafiquants. Ne pas céder à la peur, il sera votre invité Apolline ce matin à 8h30. La plainte collective pour concurrence déloyale déposée par des milliers de commerçants contre Chine.
La mise en garde du chef d'état-major des armées.
Un mois, souvenez-vous, après avoir réclamé à l'armée française de se tenir prête en cas de choc dans 3 ou 4 ans face à la Russie, le général Mandon a réitéré mardi des propos inquiétants. Devant les maires de France réunis en congrès, il appelle les élus à préparer la population au futur conflit.
Ce qu'il nous manque, c'est la force d'âme pour accepter de nous faire mal pour protéger ce que l'on est. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque.
Et la prise de parole du général largement dénoncée, Jean-Luc Mélenchon exprime son profond désaccord. Fabien Roussel évoque lui un discours va-t-en-guerre insupportable. Réaction également dans les rangs de l'extrême droite. Le reportage de Rachel Sadodine.
Côté insoumis, le message est clair. Fabien Mandon doit être rappelé à l'ordre. Député de Seine-Saint-Denis, Bastien Lachaud est membre de la Commission de la Défense Nationale et des Armées.
Le chef d'état-major des armées a outrepassé ses fonctions. Il est indispensable qu'aujourd'hui, le président de la République le fasse taire. Le rôle d'un chef d'état-major, ce n'est pas d'affoler la population. Le Parlement est le seul habilité à déclarer et à voter la guerre.
Même position à l'autre bout de l'échiquier politique, le vice-président du RN, Sébastien Chenu, dénonce une faute. Seule la Macronie soutient donc les propos du général Mandon, le député Ensemble pour la République, Pierre-Alexandre Anglade.
C'est le rôle du chef d'état-major des armées de dire quelle est la réalité de la menace qui pèse aujourd'hui. Nous ne vivons plus dans un temps qui est un temps banal, classique, et où le tragique revient, on le voit en Ukraine, et la France est aussi ciblée par les ingérences et la pression exercée par la Russie de Vladimir Poutine.
Le mois dernier déjà, le chef d'état-major des armées avait pris à partie les députés de la commission de défense de l'Assemblée nationale, les appelant à se préparer à un choc dans 3 ou 4 ans face à la Russie.
Le général Trinquant sera avec nous à 7h40, aussi sur le fond, pour savoir si effectivement il y aura ce choc et s'il faut s'y préparer. Mais d'ici là, c'est vous que j'ai envie d'entendre. Appelez-nous au 3216. Est-ce que vous êtes prêt, comme le dit le chef d'état-major des armées, à prendre le risque de perdre des enfants? Est-ce qu'il faut en arriver là? Je vous attends au 3216.
Et à ce propos, c'est à partir d'aujourd'hui que vous pourrez retrouver le guide de survie en cas de guerre ou de catastrophe naturelle, non pas dans votre boîte aux lettres, comme promis l'an dernier par le gouvernement, mais sur les sites du gouvernement. À Marseille, les ministres de l'Intérieur et de la Justice vont rencontrer la famille Kessassi en début d'après-midi. C'est une information que vous révélez RMC hier. Déplacement de Gérald Darmanin et Laurent Nunez à la demande d'Emmanuel Macron une semaine après l'assassinat dit d'avertissement de Mehdi Kessassi, 20 ans, frère d'Amine Kessassi, militant engagé contre le narco-banditisme. Sur France 2, hier soir, il a appelé le gouvernement à l'action et les Français à ne pas céder aux narcotrafiquants.
La République a été testée. Oui, je vis un drame terrible. Je ne sais pas si demain je pourrai me relever. Je ne sais pas comment ma famille va se tenir après ça. Ne lâchons rien. Et cette fois, allons au bout des choses. Menons le véritable combat dans la lutte contre le narcotrafic. Ce samedi, il y a une mobilisation sur le rond-point où a été assassiné mon frère à 15h. Si on veut garantir ma protection, si on veut garantir la protection de celles et ceux qui se lèvent, il va falloir qu'on soit des milliers à porter cette voix parce qu'on ne pourra pas tuer tout un peuple et on ne pourra pas tuer toute une nation.
Amine Kessassi qui parle avec l'énergie évidemment du désespoir, du combat en disant « si je ne parle pas, je meurs ». Il sera sans filtre, en direct, à 8h30, mon invité sur RMC.
Emmanuel Macron, lui, se rendra à Marseille mi-décembre. Le chef de l'État qui ciblait les consommateurs de drogue mardi a fustigé hier les bourgeois des centres-villes qui financent parfois, dit-il, le narcotrafic. Nouvelle pièce dans la machine de la culpabilité, choix de l'exécutif, quand d'autres préfèrent alerter sur les dangers de la drogue. C'est le cas à Clermont-Ferrand, une ville où le trafic prend de l'ampleur et la mairie d'agir, Vincent Chevalier, avec une campagne de communication inédite placardée dans les rues de la ville.
Seulement trois mots, la drogue tue, et juste en dessous, une ligne blanche qui devient rouge, une communication efficace, selon Pauline.
Le rouge du sang et puis le blanc de la drogue, c'est simple, c'est percutant.
Une action couplée à des opérations de sensibilisation dans les écoles, pourquoi pas, même si ça ne suffira pas, d'après Solène.
C'est bien de faire de la prévention auprès des enfants ou dans les collèges, mais il n'y a pas que ça. Si la drogue, elle circule, c'est qu'elle est déjà là.
Sylvain a déjà pris des stupéfiants, surtout du cannabis, et pour lui, c'est clair, ça ne sert à rien de cibler les consommateurs.
Ils ont leur semaine de boulot, ils ont leur soirée, ils ont envie de passer un bon moment. Ils y vont, quoi. À un moment, ils vont pas se poser de questions. Est-ce que j'alimente quelqu'un qui fait du mal à d'autres ? Ils s'en foutent, les gens.
Cette culpabilisation des clients est inutile si l'État n'apporte pas de solution à ces dépendances, explique Georges Brousse, chef du service d'addictologie au CHU de Clermont-Ferrand.
La prévention, le dépistage, la recherche pour les traitements. Il n'y a aujourd'hui pas de traitement accessible pour le trouble d'usage de cocaïne. Développer des structures de soins qui prennent en charge à la fois les addictions et les pathologies mentales.
Dans la ville, le trafic de drogue a fait au moins 5 morts depuis le début de l'année.
Le trafic de drogue qui sévit également dans les Antilles, sans lien établi à 7h, on a appris qu'un jeune garçon de 5 ans était entre la vie et la mort ce matin en Martinique, blessé dans une fusillade sur le territoire du Lamentin. Il se trouvait à l'arrière d'un véhicule à bord duquel un homme a été tué. 2 euros, c'est le montant de la taxe sur les petits colis votée hier à l'Assemblée nationale dans le cadre de l'examen du budget. S'il venait à être adopté, la somme récoltée servirait à financer les dispositifs de contrôle de ces produits envoyés par les plateformes extra-européennes. Parmi elles, Chine. Après le gouvernement, le site chinois se retrouve dans le collimateur d'une coalition de commerçants et d'industriels. Victor Joannin, 12 fédérations s'unissent pour attaquer et demander réparation des préjudices à Chine en justice, accusée de concurrence déloyale.
Oui, cette coalition de commerçants accuse Chine de ne pas respecter les règles du jeu. La plateforme a déjà été condamnée, notamment pour pratiques commerciales trompeuses, et elle livre des produits non conformes, rappelle le directeur général de l'Alliance du commerce, Yuan Petiot.
Le fait pour Chine de ne pas respecter ces règles a permis à la plateforme d'agir avec une concurrence déloyale qui a porté tort à l'ensemble de notre tissu économique. Et c'est aujourd'hui ça dont nous demandons la réparation en justice.
Cette procédure est complexe et prendra du temps, un an et demi au minimum, selon l'avocat spécialiste en droit commercial, Adrien Debacker.
Il ne suffit pas de démontrer que le concurrent, et en l'occurrence chez n'a pas respecté les règles. Encore faut-il rapprocher un préjudice qui serait lié au non-respect de ces règles. Et donc là-dessus, il va falloir le démontrer et convaincre le juge à la fois de la faute, mais également du préjudice lié à cette faute pour le concurrent.
Chine n'a pas tardé à réagir. Selon la plateforme, cette initiative des commerçants s'apparente davantage à une tentative de boycott qu'à une démarche juridique sérieuse.
Un plan de paix envoyé par les États-Unis à l'Ukraine, pas forcément à l'avantage de Kiev. Il prévoit la cession de territoire à la Russie, le renoncement à ses armes longue portée, la réduction de son armée de moitié. Et puis un nouveau trophée individuel pour un joueur du PSG.
Achraf Hakimi.
Achraf Hakimi, sacré meilleur joueur africain. C'était hier soir à Rabat, finaliste l'an dernier. Le défenseur marocain du PSG décroche ce titre pour la toute première fois de sa carrière.
C'était le journal de Thibaut Texer. 7h08, vous êtes nombreux à réagir à ces propos du chef d'état-major des armées qui dit qu'il faut accepter le risque de perdre ses enfants et que sinon nous sommes battus d'avance en quelque sorte face au choc qui vient. Olivier qui nous appelle d'Aubervilliers. Bonjour Olivier.
Bonjour Apolline, bonjour à toute l'équipe.
Olivier, vous-même vous travaillez je crois dans la cybersécurité. Est-ce que vous êtes choqué par les propos du chef d'état-major des armées ou est-ce que sur le fond vous vous dites qu'il a raison ?
Alors je suis pas choqué, moi en fait j'ai fait 27 ans dans l'armée, j'ai 4 enfants et sur mes 4 enfants j'ai 3 fils. Sur les 3 j'en ai déjà un qui est dans l'armée et j'ai les deux autres qui veulent suivre la même voie. Moi, ça me choque pas, mais je pense que personne n'est prêt à perdre l'un de ses enfants. Je pense qu'en 14-18, en 39-45, même tous les militaires qui sont morts en opération, les familles n'étaient pas prêtes. Je pense qu'il a, il a la clarté de dire les choses, de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et surtout, les politiques n'auraient jamais le courage de dire ce qu'il a dit. Que ce soit dès qu'on a pendant entendu parler à LFI et RN, je pense qu'ils ont, autre chose à faire en ce moment. Mais, sincèrement, on est dans une situation géopolitique qui est compliquée, qui est dure, et en fait, il a le mérite de dire les choses. Est-ce que c'est à lui de le dire ou pas ? Je pense qu'il n'y a aucun texte qui l'interdit de dire.
En fait, je trouve très intéressant ce que vous dites, Olivier, parce qu'au fond, depuis que ces propos ont été rendus publics, depuis hier après-midi, en gros, toutes les réactions politiques, c'est de dire « Oh là là, scandale, il ne devrait pas dire ça, c'est un va-t-en-guerre ». Mais au fond, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas est-ce qu'il doit dire ça ou pas, c'est est-ce que sur le fond, il a raison. C'est-à-dire, est-ce que sur le fond, attention, il dit pas on va perdre nos enfants. Il faut être très précis. Il dit, si nous n'acceptons pas ce risque, alors on a perdu d'avance. Parce que alors nos ennemis qui nous regardent, qui nous écoutent, se disent que de toute façon, ils peuvent en gros envahir la Pologne, que de toute façon, on bougera pas un petit doigt. C'est exactement ça qu'il dit. Olivier, vos enfants, quand ils se sont engagés, quand ils décident de s'engager dans l'armée, comme vous, vous l'avez fait, ils pensent à ça, ils pensent au risque, ils se disent, je vais donner ma vie s'il le faut.
Ça fait partie des discussions que j'ai avec chacun d'entre eux quand ils prennent cette décision et je leur explique ce que c'est. Je leur explique que c'est pas simplement un travail, c'est vraiment un investissement. C'est, et quand je leur demande pourquoi ils le font, ils ont des propos qui sont cohérents. Ils disent qu'ils font ça pour la France, ils font ça pour le pays parce qu'il y a encore des valeurs qu'ils veulent défendre. Ils veulent défendre le peuple français. Donc merci. Oui, ils sont vraiment, ils savent ce qu'ils font en connaissance de cause. Ça m'arrive pas forcément parce que je l'ai fait aussi. Mais voilà, c'est un risque à accepter.
Merci beaucoup. Merci Olivier pour votre témoignage. Venez aussi réagir à ce que disait Olivier. Olivier qui nous appelait donc au 32-16 depuis la Seine-Saint-Denis à Aubervilliers. Il est 7h11.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
C'est un pays où la guerre contre le narcotrafic a fait 450 000 morts en 20 ans. Le Mexique. La France est-elle en train de devenir le Mexique? Bonjour Frédéric Saliba.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, ancien correspondant au Mexique. Votre regard est particulièrement intéressant parce qu'on entend ce mot désormais, la mexicanisation du narcotrafic en France. La mexicanisation, vous savez, vous, ce que c'est. Vous allez pouvoir nous le dire dans un instant. À tout de suite. Il est 7h11.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h15 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. La France est-elle en voie de mexicanisation? Bonjour Frédéric Saliba.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, ancien correspondant du journal Le Monde au Mexique. Vous étiez installé à Mexico quand la guerre contre les narcos a été lancée par le gouvernement mexicain. Résultat, 450 000 morts en 20 ans. Depuis l'assassinat de Mehdi Kessassi, le frère du militant antidrogue Amin Kessassi, on a franchi un cap. C'est un assassinat de bascule, d'intimidation, de terreur. Voilà ce que disent le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice. Est-ce qu'en effet, c'est un tournant et est-ce que ça vous rappelle le début de cette guerre des gangs?
En tout cas, il y a une impression de déjà-vu, ça c'est clair, au Mexique, mais pas qu'au Mexique, en Colombie, en Équateur, au Guatemala. Vous avez comme ça des assassinats d'avertissement, d'intimidation, c'est-à-dire que des proches qui n'ont absolument rien à voir avec le narcotrafic ou avec la lutte contre le narcotrafic sont pris pour cible. Et tout simplement parce que on est, à mon avis, dans une phase de cartélisation en France, c'est-à-dire que les groupes criminels auxquels on a affaire sont en train de se structurer. Les enjeux deviennent beaucoup plus importants pour eux, et d'ailleurs on le voit. Pourquoi? Parce que la consommation explose, cocaïne mais pas que, drogue de synthèse aussi, et qu'on parle de milliards d'euros. Et donc en fait les enjeux sont énormes, et c'est vrai qu'Amin Kessassi est un acteur que je trouve très intéressant à Marseille, c'est-à-dire qu'il porte une voix très intéressante où il appelle le gouvernement à avoir une gestion beaucoup plus globale, une stratégie beaucoup plus globale que seulement le répressif. Et surtout, il appelle à s'attaquer au caïd, en fait, au chef de ces réseaux.
Donc il dérange.
Évidemment, il dérange. Et puisqu'il dérange, quand on vise le frère d'Amin Kessassi, on ne vise pas que la famille Kessassi. On vise tous les activistes qui sont des gens dans les quartiers un peu difficiles et qui portent une autre voix, qui sont un lien, en fait. Et puis, on vise aussi le pacte social qu'on peut avoir entre nous.
En fait, on demande à tout le monde de se taire.
Oui, c'est l'omerta, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Et la peur, en fait, est un vecteur incroyable de silence. Et c'est vrai que si on se tait, et moi j'attendais beaucoup les déclarations d'Amin Kessassi, je suis assez soulagé d'avoir vu sa tribune dans Le Monde et puis ses entretiens ce matin.
Il sera en direct à 8h30, mon invité, tout à l'heure.
Voilà, sa parole est très importante. Et se taire, à mon avis, est la pire des choses. Au Mexique, par exemple, dès qu'il y a des menaces contre des journalistes ou contre des activistes, on a tendance à les appeler à faire des déclarations.
Pour précisément montrer qu'ils ne s'avouent pas vaincus. Maintenant, la question quand même, une fois qu'on a dit ça, c'est qu'est-ce qui s'est passé au Mexique? C'est-à-dire que ces avertissements, ces intimidations, et puis une forme de guerre qui a été lancée par le gouvernement, par l'État, contre les cartels. Avec quel résultat?
Écoutez, c'est catastrophique, vous l'avez dit, 450 000 morts, plus d'ailleurs, plus de 100 000 disparus, hein, ce qu'il faut ajouter. C'est à peu près entre 20 et 30...
Des charniers, quand des disparus, ce sont des charniers. C'est-à-dire que c'est désormais, partout sur le territoire mexicain, des familles, des gens qui ont disparu, qui ont été assassinés.
Non, c'est très dur. Il faut avoir l'estomac bien accroché quand on est journaliste et qu'on se retrouve avec 25 morts des charniers, 25 cadavres. Il y a une amplitude comme ça énorme, on n'en est pas là en France. Mais c'est vrai quand même qu'au Mexique, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait un président de la République, Felipe Calderón, en 2006, très mal élu, manque de légitimité, et qui s'est appuyé sur l'armée, qui a déployé l'armée. Il a déployé 50 000 militaires sur le territoire, le conflit s'est embrasé, les narcotrafiquants se sont armés. Et en fait, il y a eu une militarisation de ce conflit, sans qu'il y ait toute une politique sociale, toute une politique éducative, sanitaire, qui accompagnerait.
Au fond, il faut les deux bras, j'allais dire, de ce combat, c'est-à-dire il faut quand même à un moment qu'il y ait du répressif, mais s'il n'y a pas cet accompagnement social, d'ailleurs ce que fait Amine Kessassi dans les quartiers, ça ne marche pas.
Oui, et puis il faut rajouter aussi tout ce qui est renseignement financier, parce que le blanchiment d'argent, c'est le nerf de la guerre, hein, c'est l'argent. Donc il faut associer, en effet, le répressif ne suffit pas, et au Mexique, ils ont fait tout ce qu'en gros, il ne faut pas faire.
Je voudrais vous poser une dernière question parce que j'ai senti quand on a préparé cette interview que vous avez aussi projeté une crainte sur les municipales. Disant au fond, on arrive dans des périodes électorales et il faut savoir que désormais dans les territoires, les élus vont recevoir des pressions, des menaces.
Il n'y a pas de narcotrafic sans corruption. Et je dirais même qu'il n'y a pas de narcotrafic de grande ampleur qu'en Amérique latine sans narcopolitique. Et donc, en fait, il y a une pression qui va être très très forte sur les élus. Pourquoi ? Parce que les organisations liées au narcotrafic ont besoin d'une emprise locale. Et les municipales sont vraiment le moment clé. Donc, en fait, il risque d'avoir des pressions sur les candidats. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au Mexique, on n'en est plus là. Et qu'aujourd'hui, en fait, les cartels de la drogue placent directement leurs hommes sur les listes électorales, voire des cousins de narcos deviennent maires. Et à partir du moment où le verre est dans la pomme, je peux vous dire que c'est très difficile de soigner une démocratie.
Il est donc minuit moins une. Merci Frédéric Saliba, ancien correspondant du journal Le Monde au Mexique. Vous avez publié l'an dernier ce livre « Cartel, voyage au pays des narcos » aux éditions du Rocher. Une plongée dans les mafias mexicaines. Merci de votre éclairage.
Merci. Il est 7h20.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 7h20 sur RMC. L'historien d'Apolline Matin vient de rentrer dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Mais qu'est-ce qui se passe ? La semaine dernière, vous nous parliez de nostalgique de Pétain. Et ce matin, vous nous parlez de nostalgique de Franco, le général dictateur espagnol, avec des Français qui voudraient lui rendre hommage.
Et oui, c'est la saison. Une association veut saluer sa mémoire. Le régime de Franco a pourtant fait des milliers de morts, avec une répression sans pitié et un état policier criminel.
Et puis il y a Arnaud Demange qui arrive pour pirater le face-à-face. Mon invité ce matin, vous l'avez compris, c'est Amine Kessassi. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes sur RMC, 7h21.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h22, vous êtes bien sur RMC et à la télé sur RMC Story. C'est l'heure de remonter le temps. Avec Arthur Chevalier, notre historien du matin. Arthur, la semaine dernière, vous nous parliez de la messe en hommage à Philippe Pétain. Et alors voilà que cette semaine, vous nous dites qu'il y a une autre messe d'hommage, de nostalgique du général Franco. C'est prévu à la fin du mois à Paris.
Oui, une messe organisée par une association franco-espagnole qui se revendique nationaliste. Cette commémoration a lieu à l'occasion des 50 ans de la mort de Franco. La date exacte de sa mort, c'est d'ailleurs aujourd'hui. Et c'est un élu parisien communiste, Yann Brossat, qui s'est indigné de cet événement.
Alors Franco a été un personnage extrêmement sulfureux.
Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire à Pauline. Franco arrive sur le devant de la scène au début des années 1930. À cette époque, l'Espagne est une république, mais en 1936, des militaires font un coup d'État. La République ne se laisse pas faire, tout ça dégénère en guerre civile. Deux camps vont s'affronter, d'un côté des socialistes et des communistes, de l'autre des nationalistes et des fascistes. Le général Franco était un des militaires nationalistes. Ce conflit sanguinaire fera plus de 200 000 morts.
Terrible conflit. Qui va gagner cette guerre civile ?
Alors, en 1936, c'est finalement les nationalistes qui remportent la mise. Et l'homme qui s'impose, c'est Franco. Il instaure un régime autoritaire en s'appuyant sur l'armée et la religion catholique. Bon, clairement, c'était une dictature avec un parti unique, très classique.
Et lui, c'était quel genre de dictateur, si je puis poser la question ainsi ?
Alors, c'était un homme assez inclassable et mystérieux. Franco avait une intelligence politique supérieure, il parlait peu, vivait de façon assez sobre, en tout cas pour un dictateur, et passait son temps à travailler. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Franco est certes allié de Mussolini et de Hitler, mais il réussit à garder ses distances, en tout cas assez pour leur survivre, puisque en 1945, les Américains le maintiennent à la tête de l'Espagne. Pour eux, Franco était un rempart contre le communisme. Il restera au pouvoir jusqu'à sa mort en 1975. C'est tout simplement le dernier dirigeant fasciste de l'Europe de l'Ouest.
L'Espagne est restée une dictature tout le temps de Franco.
Oui, qu'on soit clair, hein, c'était un état policier. On arrêtait et on tuait par milliers. Et une des spécialités de ce régime, c'était de retirer les enfants aux parents qui étaient des opposants politiques. Les gosses étaient ensuite placés dans des établissements catholiques payés par le régime.
Quel souvenir a laissé Franco en Espagne ?
Alors ça c'est mitigé, hein. 21% des Espagnols considèrent aujourd'hui que les années de la dictature ont été bonnes. 65% jugent au contraire qu'elles ont été mauvaises. Donc il faut relativiser un peu le souvenir de Franco. Mais la nouveauté, c'est quand même le regain de popularité de Franco chez les jeunes, puisqu'ils voient ces années comme un moment où il y avait de l'ordre et où tout fonctionnait, ce qui évidemment est un fantasme total, hein. Sous Franco, l'Espagne était un des pays les plus pauvres d'Europe. Rien ne fonctionnait. Le pays était aussi très isolé et les gens vivaient dans la terreur.
Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Et on accueille tout de suite Arnaud Demange.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud.
Et bonjour.
Arnaud dans le face-à-face sur RMC et BFM TV. Tout à l'heure, je reçois le militant marseillais anti-drogue qui vient de perdre son frère assassiné, Amine Kessassi.
Oui, en trois jours, on est passé de Patrick Sébastien dans le face-à-face à Amine Kessassi, avec dehors les températures ont baissé, ici aussi. Hein. Alors Amine Kessassi promet de continuer son combat contre le narcotrafic après l'assassinat de son frère. Il a déclaré « Je ne me tairai pas ». C'est une preuve de courage absolument incroyable. Déjà, être contre le narcotrafic à Marseille, c'est un peu comme être végétarien au Pays Basque, si vous voulez. C'est compliqué, c'est mal vu, c'est comme ouvrir un cercle d'alcooliques anonymes en Bretagne. Bonjour, je m'appelle Erwan et je suis alcoolique. Ouais, et alors ? Ça te pose problème ? Je dois admettre que je n'ai pas 1% de ce courage. Lui, il vient à la radio pour faire face à des narcotrafiquants. Moi, hier, j'étais au restaurant, j'ai commandé du poulet, on m'a servi du poisson. Le serveur était un peu costaud, j'ai dit
« Merci ».
Je ne suis pas au même niveau de courage. Dans le trafic de drogue, la responsabilité du consommateur est un sujet de débat. La drogue, on le rappelle, c'est comme les fringues de Chine, c'est de la merde, il ne faut pas en prendre. Moi, j'en ai jamais pris parce que j'ai très vite compris qu'il fallait que je protège mes neurones. Je ne pourrais pas compter sur mon physique. Je suis l'inverse de Jean-Claude Van Damme. Est-ce qu'il faut dépénaliser ou légaliser la drogue comme c'est déjà le cas en Hollande, au Portugal ou dans le monde du cinéma? On me dit dans l'oreillette que c'est pas légal dans le monde du cinéma. Ce serait bien de les prévenir parce qu'ils sont pas au courant visiblement. Hier, ici même, Louis Sarkozy préconisait donc de dépénaliser, de prendre le problème sous l'angle médical du combat contre l'addiction, ce qui est une approche qu'on n'a pas en France, alors qu'on peut comprendre que d'aller se piquer avec une seringue usagée à la colline du Crac sous la pluie au mois de novembre, personne le fait par plaisir. C'est pas pour le fun. Si vous proposez à un ami, t'as envie d'aller à Disney ou t'as envie de claquer 400 balles dans une dose d'héroïne coupée au Ariel Ultra dans une salle de shoot du 15e avec des gens qui hurlent, et que cette personne vous répond, je prendrais bien l'héroïne entre les deux choix, c'est quelqu'un qui ne va pas bien. Il faut le soigner. Et alors, autre effet très intéressant de la légalisation, dépénalisation, dont on parle jamais, c'est que ça ouvre la porte à ce que j'appellerais la daronisation du produit.
Ah oui.
Tu trouves que fumer du shit, c'est cool? Eh ben, attends que ton père débarque en soirée avec un joint en faisant « Alors les Jones, wesh, on kiffe. Ça vous dirait pas de méfu un petit tarpé en écoutant du Maître Gims? Bon bah là, c'est terminé, t'as plus envie de fumer de ta vie. La prévention est assurée. » Voilà, ne loupez pas cette interview capitale d'Amine Kessassi à 8h30.
Arnaud Demange, qu'on retrouve tout à l'heure, dans un instant, la météo et le journal de 7h30, et puis vos réactions au propos du chef d'état-major des armées. Faut-il accepter l'idée de perdre nos enfants pour la France? 7h28. 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Des patients lâchés par leur chauffeur de taxi, contraints de renoncer au transport sanitaire à cause de la nouvelle tarification de l'assurance maladie. C'est le choix de la rédaction ce matin. Une semaine après l'assassinat de Mehdi Kessassi, les ministres de l'Intérieur et de la Justice se rendent à Marseille pour tenter d'apporter des réponses sur la lutte contre le narco-banditisme. Et puis c'est un chiffre en hausse publié ce matin. Chaque jour en France, plus de 3 femmes sont victimes de féminicide conjugal. Le transport sanitaire est-il menacé en France ?
Les taxis avaient prévenu à coups de grandes manifestations au printemps. Ils n'ont pas été entendus et il semblerait qu'ils avaient raison. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la nouvelle tarification de l'assurance maladie, entrée en vigueur au 1er novembre, se fait déjà ressentir car le manque à gagner est trop important pour certains chauffeurs contraints de renoncer. Et forcément, Martin Bourdin, ça a des conséquences sur les patients.
Oui, par exemple, pour la petite Clémence que je suis allé rencontrer en région parisienne, elle a 6 ans, elle est atteinte de trisomie 21 et pour grandir le plus normalement possible, elle doit être prise en charge dans des centres de rééducation 2 jours par semaine. Jusque-là, elle faisait ses trajets seule en taxi sanitaire, mais au début du mois, les deux chauffeurs annoncent à la famille qu'ils arrêtent. Jessica, la maman, doit donc prendre le relais. Elle assure tant bien que mal avec son mari les trajets sur l'une des journées et pour la seconde, eh bien, elle a réussi à s'arranger avec un chauffeur.
On a négocié pour prendre en charge le manque à gagner qu'avait le taxi. Alors ça, normalement, c'est interdit. Mais dans la solution transitoire, il a bien voulu accepter le taxi. On est démunis, on n'a pas de solution, on n'a pas de plan B. Ou alors, elle ne va pas en rééducation. Et ça, c'est pas une option.
Elle paye donc, vous l'avez entendu, directement à ce chauffeur 30 euros à chaque aller-retour parce que ce taxi, comme beaucoup d'autres, un peu partout en France d'ailleurs, estime que les nouveaux tarifs d'indemnisation le fait travailler à perdre jusqu'à 40% de chiffre d'affaires en moins, explique Dominique Buisson de la Fédération Nationale des Taxis.
Aujourd'hui, il y en a déjà qui ont licencié pour essayer de sauver l'entreprise. Aujourd'hui, on emmène 60 000 taxis à la mort.
Et de son côté, l'assurance maladie et le ministère de la Santé dénoncent une carence organisée des transports. D'après eux, ces nouveaux tarifs permettent aussi à certains taxis d'être mieux rémunérés qu'avant.
Une enquête signée Martin Bourdin en direct pour RMC ce matin. Il est 7h33 et Marseille endeuillée s'apprête à recevoir la visite des ministres de la Justice et de l'Intérieur. Gérald Darmanin et Laurent Nunez dépêchés sur place par le président lui-même avec au programme notamment, RMC vous le révélait dès hier soir, une rencontre avec la famille du jeune Mehdi Kessassi assassiné la semaine dernière, Hélène Terzion.
Oui, une rencontre hors presse avec cette famille qui vient d'enterrer Mehdi, 20 ans, tué par balle en pleine rue à Marseille. C'est le deuxième frère assassiné du militant Amine Kessassi, engagé contre le narcobanditisme. Pour afficher la détermination de l'exécutif contre le narcotrafic, les ministres de l'Intérieur et de la Justice rencontreront enquêteurs, policiers spécialisés, le maire de Marseille aussi, Benoît Payan, qui regrette la suppression du poste de préfet de police de plein exercice comme à Paris. Mais on ne peut pas dire que rien n'a été fait, martèle un proche de Laurent Nunez. À Marseille, l'an dernier, le nombre d'homicides liés au narcotrafic a été divisé par 2. Résultat attribué par son entourage aux actions menées ces dernières années, du plan Marseille en grand aux opérations Place Net.
Et ne manquez pas ce matin à 8h30 sur RMC l'interview exceptionnelle du militant Amine Kessassi au micro d'Apolline de Malherbe. C'est un chiffre absolument glaçant qui vient d'être publié ce matin. Toutes les 7 heures en France, une femme est tuée par son conjoint ou ex-conjoint. Un chiffre qui nous vient de la mission interministérielle pour la protection des femmes et qui est en hausse, Romain Hougue.
Oui, chaque jour, ce sont 3 femmes qui sont victimes de féminicides ou de tentatives de féminicides. Et on parle là seulement des féminicides conjugaux, c'est-à-dire au sein du couple. L'an passé, 107 femmes ont ainsi été victimes de féminicides conjugaux, 270 de tentatives de féminicides et 906 femmes victimes de harcèlement de leur conjoint ou ex-conjoint ayant conduit au suicide ou à une tentative de suicide, ce qui porte le total de femmes victimes à 1283, une hausse de plus de 7% sur un an. Et puis, il y a les autres formes de violence avec des chiffres tout aussi sidérants. En France, toutes les deux minutes, une femme est victime de viol, tentative de viol ou d'agression sexuelle, et toutes les 23 secondes, une femme subit du harcèlement sexuel, de l'exhibition sexuelle ou reçoit du contenu à caractère sexuel non sollicité. Le rapport souligne qu'une fois de plus, les filles et les femmes sont restées les cibles quasi exclusives de violences sexistes et sexuelles, et ceci à tout âge et dans toutes les sphères de la vie personnelle et sociale.
Les précisions de Romain Hougue pour RMC. Il est 7h35 et les appétits de la Russie ne semblent pas être freinés par les États-Unis. En témoigne ce plan de paix de l'administration Trump dévoilé hier par un média américain qui prévoirait notamment que l'Ukraine cède plusieurs de ses territoires à Moscou et qu'elle réduise son armée de moitié. C'est dans ce contexte qu'en France, le gouvernement publie ce midi un guide de survie à destination donc des Français. Il sera mis en ligne sur les sites des différents ministères. Un document de 30 pages baptisé « Tous responsables » qui détaille les bonnes pratiques à adopter en cas de crise. Vous l'avez consulté pour RMC, Cassandre Brault.
Oui, il vous invite d'abord à préparer votre kit d'urgence, eau potable, trousse de premier secours, une radio, mais aussi une pochette étanche avec la copie des papiers d'identité et d'assurance. Toute une liste de produits essentiels à vérifier tous les ans. Utile si vous vous retrouvez bloqué chez vous en cas de route coupée ou s'il n'y a plus d'électricité. Dans ce guide, il y a aussi des informations pédagogiques, des gestes à adopter. Par exemple, en cas d'inondation, ne pas prendre sa voiture. En cas de feu de forêt, boucher les évacuations d'air et les bas de porte. Mais aussi comment réagir en cas d'accident nucléaire, de menace sanitaire ou de menaces terroristes, de quoi préparer les citoyens à toute éventualité, selon le commandant Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.
Ça permet de jeter des premières bases, et c'est déjà extrêmement important, pour commencer à avoir une démarche, on va dire, de culture, de protection civile, de protection de sa famille.
Enfin, le gouvernement veut inciter les citoyens à rejoindre les rangs des réservistes, des volontaires ou des associations de sécurité civile pour assurer la sécurité de la nation et pour affronter les événements dus au changement climatique.
Heureusement, il y a quelques nouvelles réjouissantes aujourd'hui.
Beaujolais !
C'est l'arrivée du Beaujolais nouveau et comme le veut la tradition, les premiers tonneaux ont été percés hier soir place des Terreaux à Lyon. Un Beaujolais de belle qualité selon ses producteurs, mais en moindre quantité cette année.
Et puis le quintet, Élise, 13h55 sur l'hippodrome de Vincennes.
Et voici le prono de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est le numéro 10, Power Doc. L'outsider, c'est le 4, LA Boco.
C'était le journal d'Élise d'Angers, 7h37 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il faut accepter de perdre nos enfants, de souffrir économiquement. Propos choc du plus haut gradé de l'armée française, le chef d'état-major des armées, le général Fabien Mandon. Bonjour général Dominique Trinquant.
Bonjour,
merci d'être dans ce studio avec nous ce matin. Vous êtes l'ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Est-ce que la France et les Français sont prêts? Est-ce qu'ils doivent se tenir prêts? Est-ce qu'il faut craindre en effet un choc? Un choc dans lequel nous perdrions nos enfants. Je vous pose la question dans un instant et vos réactions, bien sûr, au 32-16. Venez interpeller le général et témoigner. Il est 7h38.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h42 sur RMC la radio, sur RMC Story, la télé. Il faut accepter de perdre nos enfants. Les propos choc du chef d'état-major des armées. Bonjour général Dominique Trinquant.
Bonjour.
Vous êtes l'ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Vous avez publié D'un monde à l'autre aux éditions Robert Laffont. On y est. D'un monde à l'autre, parce qu'il faut accepter de perdre nos enfants, de souffrir économiquement. Il faut en parler dans vos communes. Voilà les propos chocs du chef d'état-major hier lorsqu'il était devant les maires de France. Est-ce qu'il a raison?
Alors, ce sont des propos chocs qui réveillent. On a peut-être besoin d'être éveillé. J'eus préféré, dans les termes, dire non pas accepter de mourir, mais accepter de combattre. On ne va pas à la guerre, mais les soldats ne vont certainement pas à la guerre pour mourir, ils vont pour combattre et gagner. C'est le caractère des citoyens qui est visé. C'est la structure de notre société.
Il faut écouter précisément et en longueur, j'allais dire, les propos du chef d'état-major des armées. Il dit, attention, je dis pas qu'il y a des chars russes qui vont arriver par l'Alsace. Il dit même, nous avons tout ce dont nous avons besoin en termes de matériel, en termes d'armée. Ce qui nous manque, dit-il, et ce que nos ennemis doivent voir, c'est notre force d'âme. C'est qu'au fond, s'ils nous savent courageux, ils n'envahiront pas.
Exactement, c'est la force d'âme, et je cite toujours Thucydide, qui dit que la défense de la cité ne repose ni sur les murailles, ni sur les vaisseaux, mais sur le caractère des citoyens. Et c'est cette force d'âme qu'il faut réveiller, il ne faut pas avoir peur, je cite Jean-Paul II, n'ayez pas peur, il faut absolument être fort, parce que quand vous êtes fort, vous êtes dissuasif, lorsque vous êtes faible, vous êtes vulnérable. Et j'ai lu il n'y a pas très longtemps un rapport de l'Institut Montaigne, extrêmement bien fait, qui donne des options et qui termine par des options d'attaque dans les pays baltes, mais qui dit avant que c'est la guerre asymétrique qui est lancée. Et il faut gagner cette guerre asymétrique, parce que si nous la gagnons...
C'est quoi la guerre asymétrique?
Ça veut dire l'information, la désinformation, le cyber, la crainte qui s'installe. Vous voyez l'attentat qu'il y a eu il n'y a pas longtemps en Pologne sur les voies de chemin de fer. Voir qu'on est vulnérable sur notre territoire fait qu'on baisse les bras, et à ce moment-là, ça encourage l'adversaire à aller plus loin.
On va accueillir Christian qui nous appelle au 32-16 du Tarn. Bonjour Christian.
Bonjour.
Christian,
bonjour,
vous êtes un ancien militaire. Dites-nous précisément, oui, comment vous avez réagi quand vous avez entendu les propos du chef d'état-major des armées?
Mais moi, ça ne me choque pas, parce que en tant que militaire, on sait très bien que quand on part en OPEX ou des TO, on prend des risques. Mmh. En France, il n'y a plus de conscrits, donc ce sont que des professionnels. Donc, on sait très bien qu'on prend des risques.
Ça veut dire, quand vous dites on est des professionnels, ça veut dire aussi que peut-être le mot choisi par le chef d'état-major des armées, quand il dit à perdre nos enfants, au fond, voilà, si je vous entends bien, vous auriez plutôt dit à perdre nos soldats.
Voilà, parce qu'on ne va pas appeler des conscrits des gamins de 18 ans pour aller se battre. Mmh.
Ce ne sera pas nos enfants.
Nous avons une armée de professionnels et ce sont des professionnels qui vont agir. Et nous sommes relativement bien formés en France, contrairement à d'autres pays.
Mais ça veut dire, Christian, que vous, quand vous étiez militaire,
oui,
vous vous disiez, je suis prêt à mourir.
Oui. Mmh. Moi, je suis allé en OPEC, j'ai fait des TO.
Des théâtres d'opération.
Oui, pardon. Quand on part, on sait qu'on prend des risques.
On sait qu'on prend des risques. Christian, restez avec nous. Je voudrais justement qu'on puisse poursuivre avec le général Trinquant. Général, est-ce que vous pensez que les Français sont prêts?
Je pense qu'il y a besoin de les motiver régulièrement. Parce qu'il y a des contre-propagandes qui sont faites. J'en écoutais, disait c'est scandaleux, on ne doit pas dire ça.
Il faut d'ailleurs être précis, c'est-à-dire que moi c'est ce qui m'étonne depuis hier soir, c'est qu'au lieu de réagir au fond des propos du chef d'état-major des armées, c'est une agitation de la classe politique pour dire « Ah là là, il ne faut pas dire ça !» Comme si cette fameuse idée de l'imbécile regarde le doigt au lieu de regarder la lune. C'est-à-dire que là, on s'intéresse uniquement à l'émetteur. Est-ce qu'il faut qu'il le dise? Est-ce qu'il ne faut pas qu'il le dise? Est-ce que c'est un va-t-en-guerre? Il ne s'agit pas d'une déclaration de guerre.
Non, il ne s'agit absolument pas d'une déclaration de guerre. Il s'agit d'une préparation à ce qu'on appelle la résistance, la résilience, si vous voulez, de la société française. Il faut bien voir que les soldats, et on en entendait un tout de suite, les soldats sont prêts à combattre. Combattre, ça veut dire aller jusqu'à donner sa vie. C'est une chose, mais l'armée, elle est issue de la nation. Ces soldats, ils étaient des citoyens. Ceux qui s'engagent aujourd'hui, et il y en a 25 000 par an qui s'engagent, ce sont des citoyens qui décident de s'engager pour leur pays. Et moi, je suis surpris de voir que la jeunesse française, on regardait des sondages il n'y a pas très longtemps, 60% des moins de 35 ans étaient prêts à s'engager pour défendre leur pays.
Donc, 65% même, effectivement, qui précisent et qui disent être prêts.
Voilà, donc vous savez, on voit toujours le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Moi, je le vois toujours à moitié plein, c'est-à-dire qu'on a une jeunesse qui est prête à s'engager. Et il ne faut pas renouveler les erreurs que nous avons connues dans les années 38-39, où à force de baisser les bras, eh ben on a un dictateur qui est allé plus loin, chaque fois plus loin, parce qu'on baissait les bras.
Parce qu'on baissait les bras, et cette question aussi, et je voudrais préciser les termes qu'a dit le chef d'état-major des armées, il dit, je ne vous parle pas de chars qui arriveraient et qui traverseraient l'Alsace. Non, il dit, ce n'est pas du tout de ce choc-là dont je vous parle à propos de 3 ou 4 ans d'ici. Il dit, c'est un mécanisme de solidarité. Si les Russes savent que nous ne sommes pas prêts à nous battre, alors ils pourraient envahir la Pologne en se disant, de toute façon, personne ne bougera.
Et singulièrement, ce qui est intéressant, c'est que la propagande russe, la propagande du Kremlin, attaque spécifiquement la France. Pourquoi ? Parce que la France dispose de l'arme nucléaire. Or, la dissuasion, ça repose sur la volonté des citoyens avant tout. Et on voit bien que c'est ce caractère des citoyens qu'il faut attaquer pour dire, vous voyez, ils ne se défendront pas.
Thucydide, le caractère des citoyens. Christian, vous diriez quoi aux jeunes qui nous écoutent ? Vous leur diriez, oui, on peut s'engager, allez-y.
Oui, on peut et on devrait s'engager. Vous savez, depuis l'an 2000, il y a 226 soldats qui sont décédés pour servir la France. Cette année, il y a 58 militaires qui sont tombés pour la France, mais on le fait avec honneur, courage, parce que on est là pour défendre notre patrie et plus on sera nombreux, mieux on sera défendu.
Merci beaucoup Christian d'avoir témoigné au 32-16. Un dernier mot, Dominique Trinquant, sur ce guide qui a été publié hier. Ce guide, il s'appelle « Tous responsables ». Il veut préparer les esprits en cas de crise majeure. Alors oui, à un conflit potentiellement, mais aussi à des inondations, à un problème écologique. Est-ce que vous estimez que c'est utile ?
Oui, c'est utile parce que nos citoyens, j'avais dit, vivent dans le ronron, considèrent qu'ils peuvent aller au magasin demain, il n'y a pas de problème. Et une crise arrive, et ben ils ne sont pas préparés, ils n'ont pas de réserve. Et comme vous le dites, c'est pas seulement pour la guerre, hein, c'est pour tout type de crise, y compris les crises écologiques, on le voit bien. Une inondation, ben, il n'y a plus d'eau potable. Ben, si on a 2 litres d'eau potable en réserve, ça peut servir. Donc c'est utile pour préparer à des situations extraordinaires les citoyens qui vivent dans une situation ordinaire.
Au fond, c'est toujours la même question, c'est qu'effectivement, il vaut mieux anticiper pour précisément que la situation n'arrive pas. Je vous invite à regarder ce guide, il sera mis en ligne par le gouvernement à la mi-journée. Les recommandations, c'est notamment une trousse de premier secours, une radio à pile, parce qu'il faut pouvoir continuer à écouter RMC, de l'eau potable, des conserves, de la nourriture pour les animaux, tout préparé effectivement chez soi pour parer à toute éventualité. Merci, Général.
Merci,
Général
Pauline.
Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Et merci à Christian pour son témoignage. Comme lui, vous nous appelez au 32-16, 7h50.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans 2 minutes, la voix de gauche sur RMC. Cécile Duflot vient d'entrer dans ce studio. Bonjour Cécile.
Bonjour Apolline.
Marseille, la lutte contre le trafic de drogue. Les ministres se déplacent aujourd'hui. Mais au fond, pour vous, c'est plutôt les militants de terrain qu'il faut écouter.
Oui, je pense que là, il y en a marre de tous ces déplacements ministériels. Et puis, le président bientôt. Ça fait des années maintenant que les militants de terrain se battent, proposent des solutions. Il faut les écouter, eux.
À tout de suite.
RMC. Apolline Matin.
Dans un instant, Cécile Duflot. Mais d'abord, le bonus, Mathieu, avec une conversation entre Harry Potter et Harry Potter.
Oui, quand Harry rencontre Harry. On reparle ce matin de la série événement que prépare la plateforme HBO Max après la saga de films. Place à plusieurs saisons d'Harry Potter. Il y aura donc plusieurs générations de petits magiciens de l'école des sorciers. Et entre générations, il y a de la communication. Daniel Radcliffe a aujourd'hui 36 ans. C'est lui qui incarnait Harry dans les films. Et il a écrit une lettre à Dominic McLaughlin, jeune préado écossais qui va lui succéder dans le rôle. J'espère que tu passeras un très bon moment. Encore meilleur que le mien, lui dit l'aîné. C'est juste un petit mot pour l'encourager, l'acteur qui se dit attendri par cette nouvelle génération qui arrive à l'écran. J'ai juste envie de leur faire un câlin. Ils ont l'air si jeunes. Je les regarde et je me dis, oh, c'est dingue d'avoir fait tout ça à cet âge. Mais dans l'interview où il révèle l'échange entre les différents Harry Potter, Daniel Radcliffe confirme surtout qu'il ne sera pas de ce nouveau projet. La production veut une coupure nette et même lui ne veut pas être un fantôme, une ombre dans le sillage de ses enfants. La série Harry Potter, soyez patients, fera ses grands débuts courant 2027.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche.
Voix de droite.
7h53 sur RMC et RMC Story. Voix de gauche ce matin, puisqu'on est jeudi. Cécile Duflot est avec nous. Bonjour Cécile.
Bonjour Apolline.
Il y a les ministres de l'Intérieur et de la Justice qui seront à Marseille tout à l'heure. Il y a le président de la République qui sera à Marseille dans 15 jours. Ils vont rencontrer la famille de Mehdi Kessassi, le frère du militant marseillais anti-drogue. Cécile, est-ce que ces visites politiques ont encore un intérêt ?
Je crois que ça commence à bien faire en fait. Ça fait des années maintenant que ça devient presque une mode. Ça a commencé beaucoup avec Nicolas Sarkozy, mais ensuite Guéant, Hortefeux. Manuel Valls, quand il était ministre de l'Intérieur, il a fait 10 visites en 1 an et demi à Marseille. Et ensuite, bah, on se souvient évidemment d'Emmanuel Macron et de Marseille en grand.
Marseille en grand, ça veut dire que ça ne sert à rien.
Bah, ça veut dire que justement à ce moment-là, ce qui était d'ailleurs très ambigu parce que c'était aussi un lancement de campagne, il y avait des belles images sur fond de vieux port. Enfin, Marseille est vraiment utilisé comme un outil de communication et comme un décor. Mais à ce moment-là, il faut se souvenir que Amine Kessassi avait déjà parlé à Emmanuel Macron.
Il avait déjà parlé, il l'avait déjà alerté, on va y revenir, mais il y a eu quand même des opérations, ce qu'on appelait les opérations Place Nette.
Oui, alors ça c'est quand même, là aussi, une histoire de communication, parce que les opérations Place Nette, ça s'est fait à grand renfort d'alerte sur les médias. On pourrait imaginer faire ce type d'opération, mais sans avoir besoin d'appeler la télévision, la radio et tout le monde pour mettre en lumière cette action. Et on se souvient très bien que lors d'une opération Place Nette, la Provence avait publié un article pour dire que 24 heures après, tout était redevenu comme avant, il y a eu des pressions politiques pour faire virer le directeur de la rédaction. Donc on voit bien que derrière tout ça, il y a quand même beaucoup de communication et c'est très dommage.
Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que l'État est impuissant, on ne fait rien ?
Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que je pense que le travail contre le narcotrafic, c'est un travail dans la durée, qui a besoin de moyens, qui n'a pas forcément d'ailleurs besoin de beaucoup d'esbrouf et besoin de beaucoup de communication, mais que surtout, il faut écouter les acteurs de terrain. Je l'ai dit, Amine Kessassi avait parlé en 2021 à Emmanuel Macron. Il avait dit qu'il fallait une vraie police de proximité, une présence quotidienne sur le terrain, qu'il fallait une coopération internationale et une efficacité beaucoup plus large. Et puis surtout cette phrase, je veux citer sa phrase à lui, une phrase de 2021. Tant qu'on n'éradiquera pas cette misère, on n'éradiquera pas le trafic de drogue. Donc voilà, je pense qu'il faut moins de com et plus d'action, faire confiance aux gens qui savent et qui connaissent le terrain. Et surtout, je voudrais dire une chose, il y a un discours qui, et j'ai bien peur que ce soit encore ça, qui dit mais il faut les mettre plus en prison, il faut mettre en prison les jeunes plus jeunes, sauf qu'on bute sur un énorme os, et tous les acteurs de terrain là aussi le savent. Quand vous mettez un jeune très jeune à la prison des Baumettes, bah, il va être encore plus dans les mains des narcotrafiquants. Donc il faut vraiment donner des moyens aussi à tous ceux qui accompagnent les jeunes pour qu'ils ne tombent pas dans les griffes du narcotrafic.
Merci Cécile. Cécile Duflot, la voix de gauche sur RMC. À 8h30, le témoignage sans filtre, en direct, d'Amine Kessassi qui sera face à moi sur RMC et BFM TV. Il est 7h56, dans un instant précisément à la une du journal de 8h, ce sera un reportage sur le terrain à Marseille. Comment les Marseillais réagissent à ce premier acte de terreur. Et puis la météo, du froid et des giboulées. Et juste après le journal, il y aura Emmanuel Le Chypre. On va parler du prix des voitures électriques. Emmanuel.
Mais oui, une bonne nouvelle pour Cécile Duflot. Le marché de l'occasion des voitures électriques est en train de décoller.
Et vous nous le dites dans un instant. Il est 7h56.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Vous écoutez RMC, vous regardez RMC Story, il est 8h. Belle journée à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Il refuse de se taire et le militant anti-drogue Amine Kessassi est l'invité d'RMC ce matin, lui qui appelle à la révolte contre le trafic de drogue une semaine après la mort de son frère à Marseille. Une question ce matin, est-ce la fin très bientôt de la guerre en Ukraine? Vous verrez que les États-Unis présentent un plan carrément de capitulation à l'Ukraine. Et on a les résultats ce matin des évaluations de rentrée scolaire menées depuis la rentrée de septembre dans les écoles. Résultats qui ne sont pas brillants.
Les ministres Gérald Darmanin et Laurent Nunez se rendent à Marseille ce matin.
Une semaine après la mort du frère du militant anti-drogue Amine Kessassi dans ce que le gouvernement appelle un crime d'intimidation et en attendant une marche blanche contre le trafic de drogue qui aura lieu samedi à Marseille. Les ministres, donc Laurent Nunez, Gérald Darmanin, qui rencontreront aujourd'hui la famille Kessassi en déplacement à Marseille où vous êtes pour RMC, Anna Jaujard.
Il y a comme un sentiment de déjà-vu derrière cette visite ministérielle pour Clara, une Marseillaise qui ne s'attend à aucun changement.
Juste des paroles, une forme de publicité politique dont on n'attend, nous en tout cas, rien et absolument plus rien.
À côté d'elle, Viviane acquiesce, elle en veut aux élus et à l'exécutif.
On l'a beaucoup trop attendu parce que ça fait des années que c'est latent et ils le savaient très bien.
Les annonces et les promesses, Fadela Widef de l'association Arc-en-Ciel y a pourtant cru.
J'avais interpellé le président, j'avais eu une discussion avec M. Rotaillot à l'époque. Je ne vois pas ce que ça a changé.
Cette figure du monde associatif dans les quartiers nord constate qu'il y a quand même plus de policiers dans la rue, mais pour elle, la répression n'est pas l'unique solution.
Effectivement, il y a plus de saisies, effectivement, il y a plus d'arrestations, et c'est très bien. Mais est-ce qu'il y a plus de soutien aux associations qui aident les jeunes qui sont déscolarisés? Est-ce que les logements sociaux sont dignes? Non. Donc c'est cette misère-là qui amène des jeunes, aussi jeunes, à entrer dans la délinquance.
Le ministre de l'Intérieur, lui, se félicitait avant-hier de la réduction du nombre de points de deal à Marseille, passé, selon ses chiffres, de 160 en 2021 à un peu plus de 80 aujourd'hui.
Et alors, aucun territoire n'est épargné par le trafic de drogue. Cette nuit, c'est en Martinique, au Lamentin précisément, qu'un homme est mort dans une fusillade, touché par balle. Il était dans sa voiture, sous les yeux d'un enfant de seulement 5 ans. Enfant qui a été touché, qui est d'ailleurs entre la vie et la mort au moment où on se parle. C'est le 29e mort par balle en Martinique depuis le début de l'année, où les autorités n'arrêtent pas d'alerter un Romain Houx sur les conséquences du trafic de drogue dans les Antilles.
Oui, c'est bien simple. Le podium des trois départements français les plus touchés par les homicides l'année dernière était la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe. Dans ces territoires, la moyenne est de 7 homicides pour 100 000 habitants contre à peine 1 en métropole. Depuis des mois, les autorités alertent sur la circulation toujours plus massive massive d'armes à feu sur fond de narcotrafic en août dernier. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bruno Retailleau, avait parlé d'un tsunami blanc pour évoquer le trafic de cocaïne. Il avait annoncé le renforcement de l'office anti-stupéfiant avec un tiers des effectifs déployés en Martinique, car les Antilles françaises sont devenues ces dernières années un point de transit privilégié par les trafiquants de drogue entre l'Amérique du Sud, les États-Unis et l'Europe. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard que les États-Unis ont dépêché le week-end dernier un porte-avions militaire en mer des Caraïbes.
Emmanuel Macron s'en prend d'ailleurs à nouveau aux consommateurs, de plus en plus nombreux en France, en fustigeant, je cite, des bourgeois de centre-ville qui financent parfois le narcotrafic.
Et tout à l'heure, ne manquez pas dans 20 minutes maintenant, le témoignage d'Amine Kessassi, sans filtre, en direct, face à moi, ce sera sur RMC et BFM TV.
C'est l'autre rendez-vous politique du jour. Cet après-midi, le Premier ministre Sébastien Lecornu qui va prononcer le discours de clôture du 107e congrès des maires en ce moment à Paris. Les maires en colère, notamment sur l'état de leurs finances. C'est d'ailleurs lors de ce congrès des maires que le chef d'état-major des armées a alerté sur un risque de guerre contre la Russie dans les 3 ou 4 ans qui viennent. Il dit carrément que la France doit être prête à perdre ses enfants. Les Insoumis et le RN condamnent ces propos du chef d'état-major des armées, prononcés au moment où l'Ukraine dit avoir reçu de la part des États-Unis, écoutez bien, un plan pour mettre fin à la guerre avec la Russie. Mais alors Antoine Hollard, vous êtes aux États-Unis pour RMC. En fait, c'est un plan qui reprend les conditions russes.
Oui, ce plan américain ressemble en fait à une demande de capitulation de l'Ukraine. Kiev devrait notamment, selon ce texte, céder l'ensemble du Donbass à la Russie, diviser par deux la taille de son armée ou encore renoncer à ses missiles longue portée, c'est-à-dire ses armes les plus efficaces contre la Russie. Exit aussi l'idée d'une force internationale déployée pour garantir la paix. Alors en l'état, on voit mal comment Zelensky pourrait accepter ces conditions, mais l'administration Trump est convaincue que les Ukrainiens sont en difficulté sur le champ de bataille et que dans ces conditions, ils ont tout intérêt à conclure ce deal. Zelensky se retrouve à nouveau sous pression, surtout que Trump veut aller vite. Il pense être en mesure de forcer un accord ou un pré-accord dès la semaine prochaine.
Plusieurs chiffres à vous donner ce matin. D'abord, sachez que toutes les 2 minutes en France, une femme est victime d'un viol ou d'une tentative d'agression sexuelle et que chaque jour, 3 femmes au moins sont victimes de féminicides ou de tentatives, chiffre en hausse selon les dernières données de la mission interministérielle pour la protection des femmes. Autre chiffre, cela sur le niveau des élèves en classe. On vient d'avoir là les résultats des évaluations nationales réalisées depuis la rentrée, depuis septembre, donc par 7 millions d'élèves en maths, en français, du CP jusqu'au CAP. Les résultats montrent que le niveau stagne et qu'on reste des cancres au niveau européen, Louis Salé.
Oui, car le niveau des petits français est médiocre, bien en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE en français et en mathématiques. Cette année, pour l'évaluation du nombre de mots qu'un élève est capable de lire en une minute, en cinquième, 20% des enfants n'atteignent même pas ce que l'on attend d'eux en CM1. Mais il y a quelques points positifs. En CP, les écarts se réduisent entre les élèves d'éducation prioritaire et les autres. En mathématiques, il y a une légère amélioration depuis 5 ans dans toutes les classes de primaire. En revanche, les différences de niveau entre filles et garçons dans cette matière sont toujours aussi importantes. Les garçons deviennent meilleurs que les filles en mathématiques à la fin du CP et cet écart se creuse tout au long de la scolarité.
Et alors ça ne concerne pas que les enfants, mais vraiment toutes les générations. Nous sommes plus que jamais accros aux écrans. Écoutez bien chiffre, 9 Français sur 10 avouent qu'ils jonglent avec les écrans. Ils regardent la télé donc en étant en même temps sur le téléphone ou sur la tablette, parfois tout ça en même temps. Bref, on a du mal à se concentrer sur une seule chose. Vous confirmez, Solène Leroux?
Vous êtes sur votre canapé, bien au chaud, devant un bon film, et là, machinalement, vous prenez votre téléphone, ça vous parle, vous n'êtes pas seul.
Je regarde mes mails, je fais autre chose, je joue.
En même temps, de manger, de regarder mon téléphone et de jouer parfois avec les jeux vidéo, je regarde une série.
Comme Louis, 32% des Français regardent même 3 écrans en même temps, télé, ordinateur, tablette, mais pourquoi ?
Parce qu'on est habitué à tout le temps être sur les réseaux, à regarder tout ce qui se passe, les actualités, etc.
On va avoir besoin de faire quelque chose de côté et je pense que la nouvelle génération, elle est vachement accrochée à ça. Elle a besoin d'être stimulée tout le temps et aussi parce qu'on a des gros problèmes de concentration.
Des difficultés qui concernent aussi les plus vieux. Avec un écran, déjà, la tension baisse. Alors si vous en ajoutez un, voire deux, il devient très difficile de rester concentré. Ça agace Jules.
Quand la personne regarde autre chose à côté, je suis en mode, tu vas louper la moitié de ce que tu regardes. Du coup, je remets 15 secondes en arrière et je le force à revoir la scène.
Ça lui arrive aussi, bien sûr, mais il a trouvé une solution. Aller au cinéma, pas de sursollicitation. Alors, moins coûteux et plus simple. En théorie, en tout cas, vous pouvez tenter la prochaine fois de couper votre téléphone quand vous regardez un film.
Oui, ou de prendre l'air aussi. Ça vaut le coup ce matin.
Il
neige ce matin dans de nombreuses régions et même en plaine cette saison. Vous allez me dire, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Orne, les Vosges, le Doubs aussi, ils peuvent faire toute la liste des départements, mais ça provoque parfois des soucis sur la route, soyez donc prudents. Les saleuses sortent des garages ce matin.
C'était le journal. J'étais émue par ces petites images, par ce côté intemporel, absolument année après année, l'arrivée de la neige. Mmh. Ça fait toujours rêver.
Comme le Beaujolais nouveau.
Exactement. Et puis, il se trouve que ça tombe bien, c'est le même jour. Il est 8h08 sur RMC et RMC Story. Dans un instant, on parle économie et voiture avec vous, Manu.
Oui, RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Le marché des véhicules d'occasion électrique est en train de décoller.
Absolument. Jusqu'à maintenant, l'offre restait limitée. Aujourd'hui, plus de 80% des véhicules vendus sur le marché de l'occasion ont encore des moteurs thermiques. Et il n'y a que 4% des véhicules qui ont des moteurs électriques. Sauf que l'offre, elle est en train de s'étoffer. Pourquoi ? Parce qu'on a aujourd'hui une voiture neuve sur 4 vendue en France qui est une voiture électrique. Et donc, au bout d'un an, on retrouve déjà ces modèles sur le marché de l'occasion, avec en plus une nouvelle génération de batteries qui offre plus d'autonomie et de fiabilité. Donc, il y avait l'offre, maintenant, elle commence à être un peu plus abondante. Et puis, il y avait les prix, bien évidemment. Jusqu'à il y a peu, il y avait encore 5000 euros d'écart en moyenne entre un modèle thermique et un modèle électrique. Or, cet écart est en train de diminuer, puisque le prix moyen des modèles électriques d'occasion se rapproche aujourd'hui du prix moyen des modèles thermiques. C'est-à-dire autour de 20 000 euros.
20 000 euros. Pour le moment, les Français, ils préfèrent quand même l'hybride non rechargeable.
Alors, c'est vrai, c'est le type de modèle que les Français plébiscitent, parce que ça paraît être la bonne transition entre le thermique et le pur électrique. Sauf que c'est très cher, 8000 euros en moyenne plus cher d'occasion qu'un véhicule électrique. Et aujourd'hui, il y a clairement une demande qui émerge pour les petites voitures électriques d'occasion. D'ailleurs, les modèles les plus recherchés aujourd'hui, c'est la Renault Zoé, la Peugeot 208, la Tesla Model 3, qui a quand même perdu 20% en un an en termes de prix sur le marché de l'occasion, la Fiat 500 et la Dacia Spring. Ce sont les petites annonces qui partent le plus vite aujourd'hui.
Merci Manu, le chip, de nous avoir accompagné dans le choix de la voiture. Il est 8h09. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous. RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
5, je vous redonne l'invité du face-à-face ce matin, Amine Kessassi, le militant marseillais anti-drogue. Et puis juste après le face-à-face, on retrouvera la semaine face à Canteloup. Ce sera à 8h50. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
8h13 sur RMC et RMC Story. Arnaud de Manchette avec nous. Salut.
Ça va bien. Il fait pas trop froid, ça pique pas trop. Il fait froid ce matin. Ça gèle. L'occasion de rappeler que la campagne de dons pour les Restos du Cœur est ouverte. Et à ce sujet, est-ce que vous avez vu passer ça? Le fondateur de EasyJet a offert aux Restos, c'est une vraie info, 730 000 boîtes de Macédoine.
Ah non.
À la fois c'est gentil. À la fois, c'est pas gentil. Enfin, je sais, de la Macédoine, c'est pas sympa. On dirait une punition de Macron. T'es pauvre et t'as faim? Eh ben, tu mangeras de la Macédoine en conserve. T'avais qu'à monter une start-up dans l'IA générative. Voilà ce que t'aurais dû faire. Bon, je me moque, mais en vrai, c'est gentil. Il a voulu bien faire. Nous, on se rend pas compte. Lui, il dirige une compagnie aérienne. Il prend pas EasyJet, lui. Des pauvres, il en fréquente pas. Il sait pas ce que c'est. Et il a voulu aider quand même. Il était au supermarché. Il a vu une photo d'une famille épanouie sur une boîte de Bonduelle. Il a fait, ah ben voilà! C'est sûrement ça, les croquettes pour les pauvres. Oh, allez hop, mettez-moi 730 000. Alors je rappelle que les dons sont déductibles des impôts à 60%. C'est-à-dire que le gars, il va voir débarquer des camions du trésor public chez lui, avec le remboursement, 480 000 boîtes de petits pois carottes. Qu'est-ce qu'il va en faire ? Alors, tant qu'on parle du trésor public, la taxe foncière devrait augmenter pour 7,5 millions de ménages. Et vous avez vu pourquoi ? C'est incroyable. C'est suite à un recalcul des éléments de confort.
Oui, j'ai vu.
Ça et disons, Jamy, c'est quoi un élément de confort? Eh bien, accrochez-vous à vos bretelles. Un élément de confort, c'est une douche, une baignoire, l'eau courante. Pascal, vous avez l'eau courante?
Je ne sais pas.
La bourgeoise,
les impôts, elle ne
veut pas le dire.
Elle
ne peut pas le dire. Donc, chaque élément de confort est compté comme des mètres carrés supplémentaires. Alors, on va faire un petit quiz. Mmh. Combien de mètres carrés supplémentaires l'État vous compte si vous avez cet élément de confort? Je vous donne un exemple. Une douche, ça vaut 4 mètres carrés de taxe foncière en plus.
D'accord.
Alors, attention, c'est parti. Un lavabo, ça vaut 3 mètres carrés de plus.
Deux.
Vrai ou faux?
Non, c'est vrai.
3 mètres carrés. Une baignoire vaut 5 mètres carrés de plus.
Ouais.
Oui. Mais qui a une baignoire?
Posséder un lit avec deux oreillers peut vous valoir 6 mois de prison s'il n'est pas déclaré.
Non. Ça pourrait. C'est la prochaine taxe.
Si vous avez une brosse à dents, c'est compté comme 12 mètres carrés.
Ah ouais.
Un riche qui se brosse les dents. Vous croyez qu'il se brosse les dents, Mélenchon? Non. L'eau courante vaut 4 mètres carrés.
Oh, peut-être.
Oui, c'est vrai.
C'est fou.
Une télé, c'est 5 mètres carrés et si elle fonctionne, c'est 8 mètres carrés. Non, ça, c'est faux.
Et si vous avez... Ça, c'est déjà la redevance.
Oui. Si vous avez un plafond, vous êtes automatiquement assujetté à l'impôt sur la fortune.
Un plafond. Ah bah oui, oui, vous avez un plafond, c'est ça.
Privilégié.
Non, mais en vrai, comment ils vont faire? Est-ce qu'ils vont envoyer un inspecteur dans nos 45 mètres carrés? Le gars, il passe en faisant « Dis donc, on a l'électricité, ça, l'exploiteur du peuple !» Hop, 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 c'est quoi ça? Non, ne le cache pas, je l'ai vu. Une chaise, allez, boum, 15 mètres carrés en plus. Et au final, l'État te taxe comme si tu vivais dans 250 et on vit un peu la vie des riches. En fait, on a tous les inconvénients des riches sans en avoir les avantages. C'est cool. Quand tu reçois ta feuille d'impôt, tu peux enfin te dire « Ah, c'est donc ça que ressent Bernard Arnault. Hey, pourquoi je suis imposé sur un jet ski? J'en ai même pas. » Oui. Mais tu pourrais. C'est là la difficulté.
À Paris, le BHV n'a pas obtenu l'autorisation d'organiser ses animations de Noël sur son trottoir.
Oui, au BHV, ils accumulent les problèmes depuis le partenariat avec Chine. Tiens, j'ai vu Authentique, le maire de Grenoble, Éric Piolle, s'oppose à l'ouverture d'un magasin Chine dans sa ville. Et ça tombe bien, puisque de son côté, Chine non plus ne veut pas être associée à la ville de Grenoble. Donc au final, ça se goupille gentiment. C'est dommage que les festivités parisiennes soient annulées. Je suis sûr que Frédéric Merlin, le patron du BHV, avait plein de bonnes idées. Salut les ploucs et joyeux Noël! Vous voulez faire plaisir à vos morveux autodiagnostiqués HPI qui s'appellent tous Ryan et Mathéo? Eh bien, réjouissez-vous les cendants! Au BHV, nos produits sont faits pour des enfants et par des enfants. Déco, téléphonie, vêtements, retrouvez tous les produits de Noël dans la semaine spéciale enfance où les enfants chinois ont mis tout leur cœur pour faire plaisir aux enfants français. Et nos illuminations 100% écolo sont produites dans nos sous-sols par des prisonniers politiques tibétains sur des vélos d'appartement reliés à un générateur. Et comme ils sont nourris qu'avec de la macédoine, ils sont un peu dénutris. Du coup, ils pédalent pas tout le temps. Donc, ça clignote. C'est aussi ça l'esprit de Noël. C'est merveilleux. À demain.
Magnifique. Merci Arnaud Demange, qu'on retrouve tous les matins.
RMC vous offre.
Arrêtez tout.
120 000 euros.
Arrêtez tout, parce que c'est l'alerte. Vous l'avez bien entendu, c'est énorme. 120 000 euros. On vous offre 120 000 euros sur RMC. Il y a 100 000 euros pour vous, net d'impôts. Et il y a 20 000 euros pour la personne de votre choix. Si quand on l'appelle, elle dit qu'elle écoute RMC. C'est ça, la grande famille RMC. 120 000 euros. 120 000 euros. Vous envoyez tout de suite RMC au 7 32 16. Pour jouer, vous envoyez RMC au 7 32 16. Mais alors attention, il est 8h18. Vous avez 10 minutes, pas une de plus, 10 minutes pour vous inscrire, c'est tout de suite, 8h18, pour pouvoir tenter votre chance et gagner 120 000 euros. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 4 SMS maxi.
Et dans un instant, le face-à-face, avec un témoignage exceptionnel, très fort, c'est Amine Kessassi. Il avait promis qu'il ne se tairait pas, il a même presque une sorte d'urgence à parler. Vous entendrez son émotion sans filtre, en direct. Amine Kessassi est mon invité sur RMC et BFM TV. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h27, vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Amine.
Bonjour.
Amine Kessassi, Mehdi Kessassi, Brahim Kessassi. Votre famille est endeuillée, vous êtes endeuillée, la France est endeuillée. Il y a une semaine tout pile, votre petit frère, Mehdi, a été assassiné. Un choc pour vous et de votre famille, bien sûr, un choc désormais pour la France, un point de bascule. Voilà les mots que le ministre de l'Intérieur a utilisés, un crime de terreur. On va dire les choses parce qu'on se les dit souvent sur RMC, on s'est parlé tout le week-end. Je vous avais déjà souvent reçu sur RMC pour votre combat. Et on s'est parlé tout le week-end et dimanche matin, vous m'avez appelé en larmes, en miettes, bouleversée, ne savant même plus pour qui, pourquoi votre frère était mort. Avec même, au début, dans une sorte de réflexe protecteur du grand frère, l'idée que peut-être c'était vous, que c'était à cause de vous. Ce matin, vous vous relevez, vous dites « je veux parler partout, je veux parler autant que je peux ». Mais au fond, je veux quand même commencer par vous demander, comment vous faites, vous, maintenant? Comment vous faites?
petit frère Mehdi, et j'arrêterai pas de le dire, il est mort pour rien. Il est coupable que d'une seule chose, c'est d'avoir été mon petit frère. Et moi, quand je vois mes mains, je vois le sang de mon frère. Parce que ces gens, ce qu'ils ont voulu faire, c'est me toucher à moi. Et comme ils ont pas pu, ils ont touché un jeune innocent, un petit garçon de 20 ans, qui avait rien fait, rien demandé à personne, qui préparait le concours de gardien de la paix. Mon petit frère, mardi 11 novembre, quelques jours avant son décès, il avait emmené ma petite nièce, la fille de mon frère aîné, qui lui-même est décédé. Il l'avait emmené à la ferme pédagogique, et il m'a envoyé des photos. Il m'a dit, regarde, j'ai pris notre nièce, et je lui ai pas répondu. Et je regrette. Je regrette de pas lui avoir répondu, de pas lui avoir dit bravo papa, c'est bien. Et ça, c'est terrible. Terrible parce qu'aujourd'hui, je verrai plus mon petit frère.
Votre mère, qu'est-ce qu'elle dit?
Ma mère, elle est anéantie, elle a déjà enterré un enfant. Aujourd'hui, elle enterre un deuxième fils, un jeune de 20 ans, son dernier, son petit qui vivait encore avec elle. Ma mère, elle est brisée aujourd'hui, brisée.
Vous avez dormi depuis?
Quand je ferme les yeux, c'est toutes ces images qui me reviennent. C'est je vois mon petit frère dans son cercueil à la morgue. Je revois l'enterrement, je revois toutes ces scènes. Et ça, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible.
Vous n'étiez pas à Marseille parce que précisément, on vous avait dit de partir.
On m'avait demandé de partir dès août. Et depuis août, j'arrête pas de dire, est-ce qu'il faut que je mette ma famille sous protection? Est-ce qu'il faut que je fasse venir ma famille avec moi? Est-ce qu'il faut qu'ils viennent? Aujourd'hui, on est sous protection, mais ça ramènera plus Mehdi.
Je voudrais savoir, est-ce qu'il se savait menacé? Est-ce qu'il disait qu'il était inquiet?
J'avais dit à mon petit frère, j'avais dit, Mehdi, papa, j'ai dit, comme on se ressemble un peu, comme on a un peu la même tête, fais attention, papa. J'ai dit, comme il y a des gens qui me cherchent, imagine, ils te confondent avec moi, ils viennent te tuer, etc. Il m'a dit, non, t'inquiète, ami, il n'y va jamais m'arriver quoi que ce soit, on se ressemble pas, tu es plus costaud que moi, pas moi, etc. J'ai dit, oui, je suis plus gros que toi, papa, mais on a la même tête, quand même, on se ressemble. Et il était dans cette insouciance, il y croyait pas.
Il voulait lui-même, et j'aimerais que vous nous parliez de lui, de Mehdi, devenir gardien de la paix.
Tout à fait, mon petit frère, il voulait devenir policier depuis qu'on est petit, c'est ce qu'il veut faire sur Netflix, il regarde des séries policières, ce genre de choses. Et il était inscrit à la prochaine session, je crois que ça commence le mois prochain, pour devenir gardien de la paix. Et moi, pour moi, et si je peux faire passer ce message, c'est que mon frère, c'est un gardien de la paix. Et on doit le reconnaître comme gardien de la paix.
On a même eu cette discussion dimanche matin, où à un moment, vous m'avez dit, Mehdi, il est mort parce que c'est mon frère, il est mort pour rien. Moi, j'ai osé, parce qu'on était dans l'émotion tous les deux, parce qu'on pleurait dimanche matin au téléphone, vous dire il est mort pour la France. Est-ce que vous entendez ça?
Ah, bien sûr. Bien sûr, derrière Mehdi, c'est toute la France qu'on a voulu tuer. Derrière Mehdi, on parle beaucoup de liberté d'expression, on condamne les pays qui ne garantissent pas la liberté d'expression. C'est la liberté d'expression qu'on a tuée. Derrière Mehdi, c'est des mères entières qu'on a tuées. Derrière Mehdi, c'est l'état de droit qu'on a voulu remettre en question. Derrière Mehdi, c'est la sécurité des Françaises et des Français qu'on a en quelque sorte tuées.
Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous considérez que ce combat, ça doit être le combat de tous les Français?
Ah oui, sans aucune étiquette. Et moi, ce matin, je veux faire passer aucun message politique. Je suis juste venu parler de mon frère et lui rendre hommage. Mais à tout le monde, portez ce combat, portez cette voix. Si vous voulez garantir ma sécurité, si vous voulez garantir la sécurité de celles et ceux qui parlent, il faut se lever, il faut que tout le monde parle. Si on est des milliers à prendre la parole, si on est des milliers à se lever, si on est des milliers de nouveaux visages qui luttent contre le narcotrafic, eh ben, ils pourront pas tuer tout un peuple, ils pourront pas tuer toute une nation.
Je le sens même dans votre besoin de parler, Mehdi, vous voulez parler partout, tout le temps. Si vous aviez parlé toute la nuit, vous auriez parlé toute la nuit. C'est-à-dire que comme si parler était désormais votre raison de vivre.
Mehdi, mon petit frère, quelques semaines avant qu'il décède, il a commandé le livre que j'avais publié il y a quelques semaines.
Marseille.
Essuie tes larmes. Et ouais.
Un livre tellement prémonitoire. Votre livre, il est paru il y a moins d'un mois maintenant. Marseille, essuie tes larmes. Et le sous-titre de votre livre, c'était « Vivre et mourir en terre de narcotrafic ». Qu'est-ce qu'il vous a dit à la lecture de votre livre?
Il avait commencé à lire et il n'a pas terminé. Et une amie de Mehdi, une amie de classe, m'a contacté en me disant « Amine, on a un exposé à faire. » Et Mehdi voulait faire son exposé sur ton livre.
Est-ce qu'il avait lu jusqu'au moment où dans votre livre vous dites « Je crois qu'il m'en voulait... » Vous parlez de Mehdi et vous dites « Je crois qu'il m'en voulait presque de remuer tout ça. » Mehdi m'avait même lancé un jour « Tu fais de la politique sur sa mort. » Il parlait de Brahim, votre premier frère tué, c'était en 2020. C'est l'origine de votre engagement, c'est votre conscience qui se réveille à ce moment-là, du nom de l'association que vous menez. Tu fais de la politique sur sa mort. Ça m'avait beaucoup blessé, écrivez-vous. Est-ce que vous savez s'il a lu ce passage, que vous avez eu des discussions là-dessus?
Oui.
Alors?
Il comprenait pas pourquoi au début je faisais en sorte que la mort de Brahim devienne une mort politique. Il comprenait pas pourquoi je disais que c'était de la politique tout ça. Et en lui expliquant les choses, il s'est même engagé à mes côtés puisque je me suis engagé politiquement et j'ai été candidat à une élection et il est venu tenir un bureau de vote pour moi. Il est venu tracter pour moi. Et la photo qu'on diffuse de lui, c'était dans le local de campagne le soir des résultats des législatives. Et il disait, mon frère a peut-être perdu cette élection, mais de son jeune âge, il a fait ce que personne n'a fait. Et la fierté que j'ai vue dans ses yeux ce soir-là, c'est une des seules choses qui m'a fait tenir ce soir de défaite au second tour des législatives.
Donc, il était là pour vous.
Oui.
Il était là pour vous. Et quand vous dites « j'ai tenu pour lui », vous avez, et il faut le dire, vous étiez cinq. Vous avez d'autres frères et sœurs. Comment on vit ça aujourd'hui? Comment eux se vivent?
Toute la famille est dans l'incompréhension, toute la famille est est anéantie en fait. On se comprend pas pourquoi lui, pourquoi Mehdi, pourquoi le plus petit, pourquoi celui qui a jamais pris la parole, pourquoi celui qui n'est pas sur les réseaux sociaux, pourquoi celui qui a une vie toute tranquille d'adolescent, il va à l'école, il étudie. Les marins de Corsica Linéa ont décidé de lui rendre un hommage et je les en remercie.
Mais justement cette question pourquoi, quand le ministre de l'Intérieur dit c'est un point de bascule. C'est un crime d'avertissement. C'est pas un avertissement, parce qu'un avertissement, c'est quand on vous envoie une balle par la poste en vous disant attention.
Tout à fait.
Il est mort.
Le sang a coulé.
C'est donc pour faire taire tout le monde. Vous dites sur ce micro, je ne me tairai pas. Qu'en est-il des autres? Est-ce que depuis, vous avez entendu la crainte d'autres militants? Est-ce que vous pouvez les comprendre? Qu'est-ce que vous leur dites ce matin?
Bien sûr, moi je comprends la crainte des militantes et militants. Bien sûr, je comprends la crainte de celles et ceux qui habitaient autour de ce rond-point, de celles et ceux qui ont des enfants qui vont à l'école, parce que c'est ça la réalité aujourd'hui. Mon petit frère, il sortait de l'école. Et c'est ça qui peut se produire pour des gens qui pourraient prendre la parole. Et ce que je leur dis, c'est que regardez-moi, je suis debout, je suis là. Et rien que pour ça, rien que pour Mehdi, rien que pour toutes ces victimes, rien que pour là où on en est arrivé, le point de bascule, ça fait des années qu'on dit qu'il arrive, ça fait des années qu'on dit que la situation a basculé. Et rien que pour ça, on doit tenir pour eux.
Vous avez envisagé de laisser tomber?
Moi, je sais pas ce que je vais faire de la suite. Aujourd'hui, je sais pas. La seule chose que je sais, c'est que je vais tenir debout jusqu'à samedi. Et la suite, j'en sais rien.
Samedi, c'est cette marche blanche à laquelle vous invitez le plus grand nombre à participer. Vous dites, on ne peut pas tuer un peuple tout entier. Il y a la réponse politique et il y a la réponse des associations comme la vôtre. Est-ce que les deux sont compatibles? Le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice seront sur place tout à l'heure. Le président de la République a dit qu'il irait à Marseille le mois prochain. Est-ce que vous en attendez encore quelque chose et qu'est-ce que vous leur demandez?
Encore une fois, moi, si je suis venu ce matin, c'est pour jeter la pierre sur personne. La seule chose que je peux dire, c'est arrêtons les discours et passons à l'action. Les discours, on en a entendu. Le constat, on sait où il est. On sait comment les choses sont faites. Maintenant, bien sûr que j'attends un tas de choses. Bien sûr que ce qu'on répète depuis des années, que l'action qui a été lancée avec Marseille en Grand, elle doit aller plus loin, qu'il doit y avoir une véritable révolution sociale dans ces quartiers, qu'il doit y avoir une véritable révolution sociale partout en France. Cette révolution sociale, elle s'accompagne d'un tas de choses. Des services publics, redonner les moyens à la police, le retour de la police de proximité, les enquêteurs aussi, parce qu'on parle beaucoup du retour de la police de proximité dans les quartiers, mais il est temps de donner les moyens aux enquêteurs d'aller au bout des enquêtes.
Et d'aller jusqu'au bout et jusqu'en haut de la pyramide. Vous parlez aussi de tous ces commanditaires qui sont à Dubaï et qui sont ceux qui peut-être ont commandité, On parle d'un des chefs de la DZ Mafia qui aurait depuis sa cellule commandité l'assassinat de votre frère. Vous crispez presque physiquement quand je dis ça. Parce que vous avez peur, parce que quoi?
Non, peur, je peux pas avoir peur. Je peux pas avoir peur après ce qu'ils ont fait à mon frère, à mon aîné.
Vous n'avez plus rien à perdre.
Non, j'ai plus rien à perdre et je l'ai dit, c'est une lutte à mort qui est engagée. C'est une lutte à mort aujourd'hui qui est engagée. Et c'est pour ça que aujourd'hui, l'État, les ministres doivent protéger ma famille dans un premier temps et c'est ce que je souhaite, protéger ma famille dans un premier temps.
Ils vous ont appelé en août et ils vous ont dit, Amine, il faut partir. Et vous avez immédiatement dit, mais on fait quoi pour ma famille? Je voudrais aussi qu'on parle des jeunes. Je voudrais que tous ceux qui nous écoutent ce matin écoutent aussi ce que vous avez à leur dire, Amine, sur ces jeunes qui parfois sont tentés, eux aussi, de rentrer dans ce trafic de drogue. Qu'est-ce que vous leur dites?
Le message, je l'ai toujours porté. On croit toujours que ça arrive aux autres. On croit toujours que ça touche que les autres. Ma famille a été touchée par deux fois. Par deux fois, j'ai enterré des frères. Et aujourd'hui, et je l'ai toujours dit et je l'ai jamais assez dit, la seule issue possible au narcotrafic, c'est la prison ou le cimetière. Et en l'occurrence, pour mon frère René Brahim, ça a été le cimetière. Et pour mon frère Mehdi, qui n'avait rien à voir avec la drogue, qui n'avait rien à voir avec le deal, qui n'a jamais mis un pied dans un commissariat, jamais mis un pied dans un palais de justice, qui n'a jamais été cité dans aucune enquête, qui n'a jamais été cité dans aucun dossier. Et mon frère est mort pour rien.
Il n'est pas mort pour rien. Il est mort pour rien. Mais il est mort aussi avec vous, qui aujourd'hui portez ce message. Hier, à votre place, c'était le grand enquêteur sur la question du narcotrafic, Frédéric Ploquin. Et il disait que votre frère était le point de bascule, pas dans le sens où Laurent Nunez le dit, mais dans le sens d'un réveil des consciences, pour utiliser votre mot. Et on se dit qu'il aura fallu en arriver là, peut-être, pour que le pays entier se réveille. Est-ce que vous vous dites ça?
Encore une fois, et je l'ai déjà dit, moi je lance la pierre sur personne, mais aujourd'hui, avec le décès de Mehdi, qui est mort encore une fois pour rien, qui est mort pour la simple raison que c'était mon petit frère, plus personne ne pourra dire je ne savais pas, plus personne ne pourra dire j'ignorais la situation, plus personne ne pourra dire j'ignorais les conséquences du narcotrafic.
Qui est l'ennemi?
Aujourd'hui, l'ennemi, c'est ceux qui commandite depuis des cellules, depuis Dubaï, depuis la Thaïlande, depuis l'étranger. C'est ceux qui appuient sur la gâchette. C'est toutes ces personnes, mes ennemis aujourd'hui.
Quand vous dites les mères de famille, on veut les faire taire, les jeunes, on veut les faire taire, est-ce que vous craignez en effet que l'assassinat de votre frère soit, ça n'est plus un avertissement pour vous, on vient de le dire, mais que ce soit un avertissement pour d'autres, je pense aux magistrats, je pense aux policiers, comment eux peuvent vivre en ce moment?
Tout le monde est menacé aujourd'hui. Toutes les personnes qui seraient amenées à prendre la parole sont menacées. C'est pour ça que la réponse, elle doit être plus que forte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est la crédibilité de la France qui est en jeu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est l'état de droit même qui est en jeu. Aujourd'hui, en auteur, j'étais hier avec Roberto Saviano, aujourd'hui, des écrivains, des magistrats, des juges, des enquêteurs peuvent être menacés. C'est pour ça que la réponse, elle doit être à la hauteur. C'est pour ça que notre pays doit se doter de vraies capacités de protection. Et quand on protège les gens, il s'agit pas juste de leur dire bonjour, est-ce que vous pouvez partir? Il s'agit de prendre en compte s'ils ont les moyens de partir. Il s'agit de prendre en compte s'ils ont les moyens de se prendre un nouvel appartement. Il s'agit de prendre en compte s'ils ont les moyens de protéger leur famille ou pas. Et de prendre en compte et en considération tous les éléments qui les entourent.
Et je reprécise pour ceux qui nous écoutent, Amine Kessassi, que vous n'avez que 22 ans. Et que vous viviez déjà depuis cet été sous protection, mais que, et j'en ai été témoin en rentrant dans ce studio, votre protection est ultra renforcée et prise extrêmement au sérieux. Une question maintenant sur la réponse sur le volet des consommateurs. On l'a vu, c'est une des réponses d'Emmanuel Macron depuis deux jours. Il parle des consommateurs complices. C'est parfois les bourgeois des centres-villes, dit-il, qui financent le narcotrafic. On ne peut pas d'un côté déplorer les morts et de l'autre consommer en rentrant du travail. Est-ce qu'il faut responsabiliser davantage les consommateurs? Qu'est-ce que vous dites à ceux qui consomment de la drogue, qui achètent de la drogue et qui nous écoutent ce matin?
Bah, à toutes ces personnes aujourd'hui, effectivement, plus personne, et ça je l'ai déjà dit, plus personne ne peut dire je ne savais pas, plus personne ne peut dire je ne savais pas ce qui se passait, j'ignorais la situation des quartiers populaires, j'ignorais ce que ça faisait lorsque j'achetais une barrette de shit, j'ignorais ce que ça faisait lorsque je consommais de la cocaïne. Plus personne ne peut dire je ne savais pas. Après, j'ai toujours porté des solutions politiques là-dessus. J'ai toujours demandé un débat autour de la légalisation du cannabis. J'ai toujours prôné un tas d'autres solutions et un tas d'autres options que la répression. Mais voilà, aujourd'hui, moi, c'est Mehdi, ma priorité, c'est rendre hommage à mon petit frère, moi, qui me...
Je vois et je le dis pour ceux qui nous écoutent à la radio. Physiquement, régulièrement, depuis le début de cet entretien, vous vous relevez, vous avez besoin de reprendre votre souffle. Mais aussi comme si vous aviez besoin de reprendre de la force, parce que c'est un combat. Comme si vous repuisiez au fond, dans les mots que vous avez écrits, ce combat-là. C'est comme ça ? C'est ça ?
Tout à fait, tout à fait. Je vais chercher le peu de force aujourd'hui que j'ai. Je trouve cette force dans ma maman qui a tout donné pour ses enfants, qui a tout donné pour sa famille, qui s'est battue pour nous et qu'on a encore une fois... briser le cœur, qu'on a encore une fois arraché un bout de son cœur, qu'on a encore une fois endeuillé. Et c'est chez elle, dans les mots que j'ai reçus de toutes ces personnes, dans l'engagement des gens que je vois venir vers moi, un tas de personnes se sont mobilisées, des gens sont venus m'accompagner, etc. Et à toutes ces personnes, je veux dire merci et leur dire levez-vous, levez-vous.
Mais levez-vous encore une fois. Il va y avoir le moment de la marche blanche samedi et c'est un début pour vous justement d'une autre forme de combat qui est un combat dans lequel vous voulez précisément ne pas vous sentir seul. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire, Amine ?
Aujourd'hui, clairement, ce qu'on peut faire, c'est parler, raconter autour de nous ce qui s'est passé, raconter les choses, continuer à alerter, continuer à interpeller. Et puis les gens qui sont engagés aussi dans des partis, faire remonter aux directions de leur parti, leur dire qu'il s'agit plus d'une question de droite, de gauche, de centre. Aujourd'hui, il s'agit de la question de la nation. Aujourd'hui, il s'agit de l'avenir des quartiers, de l'avenir des zones rurales, parce qu'on pourrait croire que cette question elle touche que Marseille. On fait beaucoup l'amalgame en confondant ce qui se passe au Mexique. On parle souvent de mexicanisation, on parle souvent de ce qui se passe à Palerme, etc.
Vous en pensez quoi, vous, de ça ?
Mais pas besoin d'aller voir à l'étranger. Ouais. Regardons ce qui se passe chez nous. Les situations qu'on décrit ailleurs, elles sont présentes chez nous.
Déjà,
dans notre territoire. Je pense à Rennes, je pense à Nîmes, je pense à Marseille. Toutes ces cités qui sont ravagées par la drogue, toutes ces zones rurales qui sont ravagées par la drogue. Arrêtons d'aller voir ce qui se passe à l'étranger. Ces situations, on les voit ici, chez nous, aujourd'hui.
Vous allez vivre comment maintenant, Amine ? Après samedi, vous allez faire quoi ? Est-ce que vous croyez encore à la politique ?
Je peux que croire en la politique. C'est le seul levier qu'on puisse avoir aujourd'hui, c'est la politique. Il y a que ça qui peut aujourd'hui changer les choses. Il y a que ça qui peut aujourd'hui décider un nouveau cours pour nos vies. Il y a que ça qui peut aujourd'hui décider que le soleil se relèvera dans les quartiers, que le soleil se relèvera chez ses familles. Il y a que ça. Mais encore une fois, moi aujourd'hui, c'est rendre hommage à mon petit frère, me mobiliser pour lui, me mobiliser pour sa mémoire.
Vous y croyez ? Vous pensez qu'on peut le gagner, ce combat ?
J'ose espérer qu'on peut le gagner. J'ose espérer pour ma maman qu'on peut le gagner. J'ose espérer pour mon petit frère qui est décédé et qu'on a enterré mardi qu'on peut gagner ce combat.
Merci, Amine, pour votre sincérité ce matin. Prenez grand soin de vous, pas seulement grâce à tous ceux qui sont à l'entrée de ce studio que je vois là, parce que vous n'êtes désormais plus jamais sans cette protection, sans ces anges gardiens, mais aussi parce que vous pouvez peut-être entendre que la nation est derrière vous. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Amine Kessassi, pour votre témoignage. Et je recommande votre livre plus que jamais. Et on aurait dû en parler beaucoup plus tôt. Merci en tout cas de l'avoir écrit aussi. Marseille et suite et larmes. C'était aux éditions Le Bruit du Monde. Et on peut le trouver bien sûr. Et votre association, l'association Conscience. Merci Amine Kessassi. Il est 8h47 sur RMC et BFM TV.
RMC, Apolline Matin.
8h50, face à Canteloup.
Pour sécher mes larmes, c'est vrai qu'il faut sortir sans transition de l'émotion
au rire et heureusement que vous êtes là. C'est Face à Canteloup justement, Nicolas Canteloup. Mon invité ce matin, c'était le militant Amine Kessassi pour parler de la lutte contre le narcotrafic. Emmanuel Macron est avec nous. Bonjour Monsieur le Président.
Oui, bonjour chère Apolline de Malherbe. Merci pour ce moment de vérité que vous nous avez offert et j'aimerais saluer la dignité d'Amine Kessassi. Je m'engage devant lui, nous allons lutter contre le narcotrafic avec la même détermination que contre le terrorisme ou contre les allocations chômage. Nous y mettrons un terme, je m'y engage.
Vous avez, monsieur le président, fustigé les consommateurs en visant les bourgeois des centres-villes qui alimentent le trafic.
Écoutez, chacun le sait, je n'aime pas les bourgeois. Peut-être, oui, certains m'ont appelé le Mozart de la finance, mais peu de gens savent qu'on m'appelle aussi le Manu Chao de l'égalité des chances. Le Bernard Lavillier de l'action sociale, donc ça suffit, les bourgeois inconscients.
Très bien, heureusement que vous êtes là, voyez, ça y est, je n'ai plus envie de pleurer. Merci Emmanuel Macron. Éric Ciotti, une réaction.
Écoutez, je suis... Bravo, moi aussi je vous félicite, mais je suis consterné par ce que j'entends. Arrêtons les paroles, il est urgent d'agir et construire d'urgence 30 prisons de haute sécurité, je le dis.
Ça va suffire pour enfermer tous les délinquants ?
Mais ce ne sont pas les délinquants que je veux mettre en prison. Ce sont les honnêtes gens, les habitants de Marseille. Mais oui, méritent eux de vivre dans un endroit sécurisé. Hein. Au moins en prison, les habitants seront tranquilles à l'abri des trafiquants. Et je le répète, du laxisme d'Emmanuel Macron.
Merci Monsieur Ciotti. Et tout de suite les titres de l'actualité avec Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Oui, bonjour Apolline. Mexicanisation après l'explosion de violence à Marseille liée au narcotrafic. Les autorités mexicaines annoncent prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter dans leur pays une marseillisation de la délinquance. Du coup, de plus en plus d'habitants de Marseille font le choix de quitter la ville pour s'installer dans des endroits plus sûrs comme Bogota, le cartel de Medellín ou les favelas de Rio.
Merci Thibault. La COP30 se termine demain au Brésil. Le chef de l'ONU a qualifié la COP21 de Paris de 2015 d'échec, puisque les engagements pris durant cette COP n'ont pas été tenus. François Hollande est avec nous. Bonjour Monsieur le Président.
J'ai mal entendu. Ma COP, un échec? Non mais pour qui se prend le chef de l'ONU, qu'il commence déjà par balayer devant sa porte, monsieur l'ONU, hein? Excusez-moi, mais est-ce que moi je lui balance comme ça en pleine face toutes les guerres, les massacres, les famines qui ruinent notre monde? Ce n'est pas une grande réussite non plus, l'action de ce monsieur l'ONU.
On comprend que vous soyez vexé quand même, François Hollande. La COP21 prévoyait de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici 2100. Bah ça y est, on l'a déjà dépassé.
Mais je m'inscris en faux. Ce matin, quand vous êtes sorti chez vous, Madame de Malherbe, n'avez-vous pas senti que c'était un petit peu refroidi?
Oui, c'est
voilà, donc c'est CQFD, donc ma COP21 est un succès. Ça a été, je pense, en toute impartialité, la plus grande COP de tous les temps. Parce que la COP30, on sait très bien comment ça va se terminer. Hein, ils vont dire qu'ils se revoient à la COP31 pour décider à la COP32 de proposer qu'à la COP33, on prenne des résolutions à échéance de la COP37. Voilà. C'est petit.
Oui.
C'est tout petit. Alors que moi, avec ma COP21, j'ai vu grand.
Bien sûr,
à l'époque.
Ça n'avait rien à voir.
Oui, j'ai su faire rêver le monde et susciter, je crois, de l'espoir.
Merci, monsieur Hollande. Le gouvernement veut regrouper toutes les aides sociales en une allocation unique pour économiser des frais de gestion. Tiens, François Ruffin est avec nous. Vous en pensez quoi, François Ruffin?
Apolline de Malherbe.
Oh oui, c'est vous.
Fusionner comme ça, qu'est-ce que... J'ai pas entendu.
Non, parce que j'ai pas réussi à résister à l'envie de vous répondre. Ouais. Voilà.
Alors, écoutez, revenons au sujet.
Oui, tout à fait.
Fusionner comme ça les allocations, ça va créer du chômage. Pourquoi? Je vous explique. Avant, un seul chômeur, avec un seul chômeur, on arrivait à faire vivre 6 fonctionnaires. Hein. Jean-Michel, celui de la CAF. Hein. Hervé. Celui de la mairie, Gisèle, qui remplace Bernard quand il est en arrêt maladie. Je pense aussi à Jean-François, qui discute toujours avec Jean-Michel de la CAF, sans oublier, bien sûr, Jocelyne, qui dit toujours, ah, bel dossier de Monsieur Martin, je sais pas où ça en est, demande plutôt à Jean-Pierre. Voilà, et Jean-Pierre Indispensable qui dit toujours, je crois que c'est Sébastien qui s'en occupe. Hein. Ouais, non, mais on veut détruire tout ça. Vous vous rendez compte qu'on est en train de détruire tout cet écosystème. On a besoin, je le dis, de tout le monde pour traiter en urgence les dossiers des gens qui souffrent. Alors je le dis et je le redis, ça suffit.
Merci, monsieur François Ruffin. Enfin, Jean Lassalle poursuit son one-man show sur les scènes de France. Bonjour, monsieur Lassalle. Comment ça se passe cette tournée ?
Ne soyons pas modestes.
Non, c'est un
triomphe. Certains, vous savez, madame Valère, monsieur Zexer, monsieur Demange, monsieur Guége, monsieur Danchamp, certains me comparent déjà à Jean Roucas.
Ah oui.
À Guy Montagnier. Bah, au grand Fernand Reynaud. Les blagues n'ont plus de secret pour moi. Je vous sens gourmande. En cette matinée, il faut le dire, une matinée un peu plombée, j'ai envie de dérider les sourires de chacun d'entre vous, en humaniste que je suis. Et je vous fais un petit échantillon. Pourquoi Jésus ne pouvait pas jouer au football le jour de Pâques?
Je ne sais pas, monsieur Lassalle.
Parce qu'il était suspendu.
Oh,
voyez, ça, c'est de la blague imparable. De la blague imparable. Et le vin plein air, sans OGM, une blague bio, nourrie au grain.
Ah, oui.
En un mot, c'est du label rouge.
Ah, voilà.
J'en ai une autre. Je vous en fais une en impro. Tiens, une en impro comme ça, pour vous personnaliser. Pourquoi l'homme qui est à côté de moi, qui s'appelle monsieur Marshall, hein? Vous savez pourquoi? Parce que comme dans tous les bons westerns, il arrive toujours en dernier quand tout est fini, que tout le monde est mort de rire. Voilà. Vous l'avez compris, je suis le Coluche des Bois, le Thierry le Luron des Clairières, le Florence Forestier.
C'est très bon.
Merci.
C'est très bon.
Merci
beaucoup Nicolas Canteloup, chaque matin avec nous à 8h50. Et comme vous l'aurez compris, Alain Marchal est rentré en catimini à la dernière minute dans ce studio. Alain, quel est le programme?
Eh bien, les GG de 9h à midi avec Joël Dagosséry, Mourad Boudjelal, Emmanuel De Villiers, la déclaration du chef d'état-major des armées, peut-être une attaque ou une confrontation avec la Russie d'ici 3 ou 4 ans, et la France qui doit peut-être être prête à perdre des enfants. Venez réagir au 32-16.